va essayer de remettre un peu nos pendules à l'heure. Antoine Mercier, vous êtes là ?
Je suis là.
Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour
c'est
à tous.
Vous.
La grande distribution en difficulté face à l'essor de l'e-commerce. La première enseigne américaine de jouets Toys R Us placée sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Explication dans un instant avec Marie Viennot. Le grand rendez-vous annuel de la diplomatie, l'Assemblée générale des Nations Unies débute tout à l'heure à New York. Première intervention de Donald Trump à la tribune sur fond d'anxiété générale sur les dossiers iraniens ou nord-coréens. Analyse de Marie-Pierre Véraud, commentaire de Frédéric Ancel. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi se dit prête à organiser le retour des quelques 400 000 réfugiés Rohingyas au Bangladesh, mais elle n'apporte pas pour l'instant de solutions concrètes. Dossier suivi par Naïn Epstein. En France, le gouvernement lâche un peu de lest sur les restrictions budgétaires. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire confirme une baisse de 4 milliards de son objectif d'économie pour 2018. Explication politique de Frédéric Seyss. Le ministre des Transports, la ministre des Transports et le Premier ministre donne tout à l'heure le coup d'envoi des assises de la mobilité. 3 mois donc pour aboutir début 2018 à une loi d'orientation sur les transports. Précision de Véronique Rebérotte. Maria, second ouragan de très forte puissance, a balayé les Antilles ce mois-ci, a déjà dévasté la petite île de la Dominique, se dirige vers Porto Rico maintenant, la Martinique relativement épargnée, la Guadeloupe touchée en ce moment même. On va faire un point à la fin de cette édition dans la dernière partie de la Grande Table. Olivia Gesbert.
6 à 8 millions d'exemplaires vendus, j'ai même pas le chiffre exact, pour son précédent ouvrage Sapiens, une brève histoire de l'humanité. L'historien israélien revient avec une suite, Homo Deus. Cette fois, c'est une brève histoire de l'avenir qu'il nous raconte dans ce livre qui paraît chez Albin Michel. Il anticipe avec des scénarios assez noirs ou comment nous risquons de nous faire manger par le monstre qu'on est en train de créer, un monstre algorithmique. Il sera avec nous à partir de 12h55.
C'est donc la première enseigne américaine de jouets, 1600 magasins, 64 000 employés, Toys R Us, placé hier soir sous la protection du fameux chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. C'est le placement d'ailleurs le plus important jamais effectué par un distributeur spécialisé. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors si on s'arrête d'abord sur cette information ce matin, c'est parce qu'elle est évidemment emblématique d'un profond bouleversement qui va toucher, qui touche déjà l'ensemble de la grande distribution menacée par le commerce électronique qui doit s'adapter. C'est sans doute l'un des signes d'ailleurs du passage entre l'ancien et vers le nouveau monde dont nous parle le chef de l'État de temps en temps. Évoquons d'abord donc cet exemple de Toys R Us. Sur les 4 premiers mois de l'année, l'enseigne a perdu 164 millions de dollars et son chiffre d'affaires a beaucoup baissé, 4,7%.
Oui, et l'entreprise creuse ses pertes. Elle n'a pas été rentable depuis 2013. Pourtant, les ventes de jouets sont en croissance de 5% aux États-Unis dans la même période. Alors, qui a capté cette croissance, d'après vous ? Eh bien, Amazon, bien sûr. Les beaux magasins, l'emblématique tyrannosaure du magasin de Times Square à New York, n'ont pas rivalisé avec la possibilité d'envoyer directement des cadeaux à l'autre bout du globe en 3 clics. Mais la concurrence d'Amazon n'explique pas tout. Il y a beaucoup de similitudes aussi entre Toys R Us et Vivarte, la chaîne de magasins textiles français. Comme Vivarte, Toys R Us a été rachetée par des fonds d'investissement il y a 10 ans. Et comme Vivarte, elle a été achetée via un LBO, une technique financière qui permet de faire payer à l'entreprise que l'on rachète les mensualités du prêt que l'on a fait pour la racheter. Quand l'entreprise est en croissance, cela peut fonctionner. Quand elle est sur un secteur très concurrentiel et qu'elle perd des parts de marché, ce qui est le cas de tous les commerces physiques en ce moment, le remboursement de la dette pèse trop, empêche même d'investir et Toys R Us n'a pas d'ailleurs réussi à développer une offre en ligne. Chaque année, Toys R Us doit donc rembourser 400 millions de dollars pour rembourser ses 5 milliards de dettes. En se mettant sous le chapitre 11 de la loi américaine, l'entreprise appuie en quelque sorte sur le bouton stop. Elle va maintenant pouvoir restructurer sa dette.
Voilà, on l'a compris Marie, c'est l'ensemble du secteur de la grande distribution qui est touché.
Oui, alors aux États-Unis, notamment, 24 chaînes de magasins ont fait faillite depuis le début de l'année. Certaines comme American Apparel ou Radio Shack ont dû se mettre 2 fois en faillite. Chapitre 22, on dit, c'est-à-dire 2 fois 11. La première restructuration n'étant pas suffisante. Amazon cherche maintenant à envahir le créneau alimentaire. En juin, l'entreprise a racheté une chaîne de magasins bio. Toutes les actions des distributeurs ont chuté en bourse. Contre-attaque immédiate de Walmart ensuite, qui a lancé avec Google la possibilité d'acheter ses produits en ligne par simple commande vocale. En France aussi, les distributeurs cherchent à riposter, mais comme dans une guerre de mouvements, et c'en est une, Amazon a pris beaucoup d'avance. Après avoir laminé les distributeurs de livres, les magasins d'électronique, d'électroménager ou de mode, le distributeur américain a pour ambition d'être un Everything Store, un magasin pour tout.
Merci beaucoup, Marie Vienno. C'est donc le grand rendez-vous annuel de la diplomatie, l'Assemblée générale des Nations unies, qui débute tout à l'heure officiellement à New York avec un discours du président américain. Donald Trump va développer sa vision du monde. C'est son premier discours, donc à la tribune de l'ONU, et il y a un fond d'anxiété générale sur des dossiers nucléaires, notamment iraniens ou nord-coréens. Les Européens, en particulier la France, disent vouloir sauver particulièrement cet accord nucléaire iranien de 2015, qui serait menacé par le président américain. Donald Trump s'est d'ailleurs entretenu hier avec Emmanuel Macron. Il a tenté de le convaincre de ne pas remettre en cause cet accord qualifié de toutes parts d'historique. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
Accord avec l'Iran, donc est-ce qu'il est réellement menacé selon vous?
En tout cas, Donald Trump a le pouvoir de le dénoncer tous les 90 jours. Le président américain doit en effet certifier ou non devant le Congrès que Téhéran respecte les termes d'un accord qui, rappelons-le, permet de vérifier le caractère pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions. La prochaine échéance, eh bien, c'est le 15 octobre. Jeudi dernier, les États-Unis ont décidé de prolonger la suspension des sanctions contre l'Iran afin de donner le temps de la réflexion au président. Et depuis, Donald Trump ne s'est pas privé de dire tout haut le mal qu'il pense du pire accord. Ce sont ces termes jamais signés par les États-Unis. Mais vous le savez, ce qui le caractérise, eh bien, c'est son imprévisibilité. Durant la campagne, Donald Trump avait promis de déchirer un texte qui, à ses yeux, à la tare originelle d'avoir été conclu par son prédécesseur, Barack Obama. Et pourtant, depuis son entrée en fonction, il a validé à deux reprises. Alors, dans quel sens penchera la balance le mois prochain? Son discours cet après-midi à l'ONU pourrait donner une indication. Hier, ses proches ont assuré que Trump serait très dur contre les États voyous, la Corée du Nord et l'Iran. Or, ce qui inquiète notamment en Paris, c'est qu'il semble lier l'avenir de cet accord qui concerne exclusivement le programme atomique iranien à l'attitude de l'Iran dans la région, notamment en Syrie ou au Yémen. Il y a donc le risque que pour punir Téhéran de sa politique moyen-orientale, Donald Trump n'use de cette arme. Ce serait une catastrophe pour Paris, car si les États-Unis dénoncent l'accord, eh bien la voie s'ouvrirait en Iran pour une course à la bombe atomique. Emmanuel Macron, vous le disiez, a répété ses arguments hier à Donald Trump. Téhéran, dit-il, respecte ses engagements et il ne faut pas prendre le risque de voir s'installer une Corée du Nord au Moyen-Orient. Mais Donald Trump s'est aussi félicité de recevoir son ami Netanyahou, qui, lui, le premier ministre israélien, insiste pour que l'accord avec Téhéran soit dénoncé ou à minima durci. Alors, la partie française veut croire que le président américain n'a pas encore pris sa décision, qu'il est possible de l'influencer. En tout cas, on sait qu'il a demandé à ses collaborateurs de lui donner des arguments contre l'accord, ce qui rappelle un certain George Bush en 2003 allant contre les rapports de l'AIEA et engageant les États-Unis dans une guerre en Irak.
Marie-Pierre Véraud, on est en ligne maintenant avec le géopolitologue Frédéric Ancel. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que Trump a la volonté, les moyens aussi de remettre en cause cet accord iranien?
La volonté, oui, les moyens, non. Parce que c'est un accord multipartite, hein, il faut systématiquement le rappeler. C'est pas un accord États-Unis-Iran, hein. C'est un accord qui a concerné et qui implique très lourdement toutes les grandes puissances, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. Et si vous voulez, c'est un accord qui porte sur une bonne dizaine d'années. Et si les États-Unis voulaient y mettre fin, ben, ils ne le pourraient pas. Alors les États-Unis pourraient eux-mêmes s'en retirer, mais avec des conséquences sans doute catastrophiques. Elles ont été très bien rappelées il y a un instant par votre collègue, et ce serait peut-être même pire du point de vue de la Russie et de la Chine, qui du coup feraient davantage encore d'efforts économiques en faveur de l'Iran au prorata de ce que le retrait américain coûterait à la République islamique.
Merci Frédéric Ancel, auteur d'un nouveau dictionnaire géopolitique, Mon dictionnaire géopolitique, que publiera dans quelques jours les presses universitaires de France. On va vous retrouver dans la séquence interview pour parler des discours attendus, notamment ceux des présidents américains et français. On parle d'un combat où le monde est au croisement entre l'unilatéralisme et le multilatéralisme. On revient donc avec vous sur ce thème central de l'Assemblée générale de l'ONU dans quelques instants. Dans quelques heures, avant l'ouverture donc de cette Assemblée générale des Nations Unies, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi s'est exprimée publiquement, c'est la première fois, sur l'exode des Rohingyas, minorité musulmane persécutée en Birmanie. Elle répondait à l'accusation d'épuration ethnique qui avait été lancée par les Nations Unies et elle s'est dit prête à organiser le retour de quelques 400 000 Rohingyas réfugiés au Bangladesh. Mais elle n'a toutefois pas apporté de solution concrète. Commentaire de notre confrère Thierry Falise, qui est auteur d'une biographie de la dirigeante birmane, interrogé par Nadine Epstein.
Aung San Suu Kyi a donné un discours à minima, c'est-à-dire qu'elle a annoncé que le pays était prêt à rapatrier ces Rohingyas. Maintenant, reste à savoir comment faire, avec quelle organisation, mais il est évident que tout ça ne pourra pas se faire uniquement sous le joug de l'armée birmane. De son point de vue et du point de vue de la majorité birmane, c'est compréhensible, parce qu'à partir du moment où elle prend position pour les Rohingyas, elle sait qu'elle s'aliène une grande partie de la population birmane, essentiellement la majorité Pamar. En tant que politicienne, elle risque de perdre une grande partie de son électorat.
Est-ce que ces Rohingyas quittent effectivement les violences de l'armée birmane, mais viennent aussi d'une région très défavorisée économiquement ?
Alors, c'est un des facteurs clés aussi de cette terrible situation. L'État Rakhine, ou Rakhine en français, dans l'ouest du pays, à la frontière du Bangladesh et de l'Inde, est un des États les plus pauvres, un des États ethniques les plus pauvres du pays. Ce qui fait que vous avez deux populations qui doivent partager la maigre ressource économique de cet État, les Rakhine, qui sont bouddhistes, qui représentent à peu près 3 millions de personnes. Et puis, d'un autre côté, vous avez les Rohingyas musulmans qui, eux, sont apatrides et qui sont à peu près 1 million. L'armée, comme vous le savez, conserve le contrôle non seulement des trois ministères qui sont liés à la sécurité, à l'armée, l'intérieur et puis les frontières. Et puis aussi, surtout, l'armée est toujours un pouvoir économique très très important en Birmanie.
Thierry Falise avec Nadine Epstein. En France, le gouvernement lâche un peu de lest sur les restrictions budgétaires. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, confirme en tout cas ce matin la révision à la baisse de son objectif d'économie pour l'an prochain. Elles seront ces économies de l'ordre de 16 milliards d'euros. Or, début juillet, le Premier ministre Édouard Philippe avait évoqué le chiffre de 20 milliards d'euros d'économies. Ça fait donc 4 de moins. Bruno Le Maire souligne toutefois que l'objectif d'une baisse des dépenses publiques de 3 points du PIB est évidemment maintenu, en tout cas sur tout le quinquennat. L'exécutif garde donc, on le voit, le cap, même s'il réduit peut-être un peu l'allure, sans doute par souci de ne pas trop voir s'agréger les mécontentements. Frédéric Saïs.
Oui, cette annonce peut se lire de deux manières, Antoine. La première, économique, tient au surplus de croissance attendu par le gouvernement. 1,7 au lieu de 1,6. Alors comme ça n'a pas l'air de grand-chose, mais c'est évidemment davantage de rentrées fiscales supplémentaires et donc des économies moindres à réaliser pour rester sous la règle européenne des 3%. Mais il y a aussi la vision plus politique. Le gouvernement craint effectivement de coaliser les mécontentements, ceux liés à la loi travail, bien sûr. Deux manifestations nationales sont en vue cette semaine, les 21 et 23 septembre, mais ce ne sont pas les seuls. Les routiers, eux aussi, se mobilisent lundi prochain, tout comme les fonctionnaires. Un appel à la grève a été lancé pour le 10 octobre, principalement sur des questions de rémunération, gel du point d'indice, mais aussi poids de la CSG qui va augmenter, ainsi que la réduction du nombre de fonctionnaires. De ce dernier point de vue, d'ailleurs, là encore, le gouvernement bouge, rétropédale. Ce matin, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a indiqué que la baisse des effectifs de la fonction publique se limiterait à 1600 agents en moins l'an prochain. Entre les lignes, cela revient tout simplement à mettre à la poubelle la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, qui avait, lui, promis 120 000 postes de fonctionnaires sur l'ensemble du quinquennat en moins. En 2018, 1600, cela représente en fait 1,6% du total espéré. Il restera donc 4 ans pour en supprimer 98,5% restant. Ça semble effectivement très difficile. Autant dire que c'est peu réaliste, d'autant que le ministère de l'Intérieur, lui, a annoncé cette semaine le recrutement de nouveaux agents policiers, évidemment face au risque terroriste. De même, Gérald Darmanin s'est engagé à des compensations de traitement pour les fonctionnaires afin que personne ne perde un euro à cause de la hausse de la CSG. Il semble donc urgent de déminer, de lâcher sur certains points, au risque sinon de tout perdre.
Merci beaucoup Frédéric Saïs. Rendez-vous demain matin, 8h15, pour votre chronique politique. Le gouvernement ouvre aujourd'hui un nouveau grand chantier, c'est celui de la mobilité, l'ensemble du système de transport du pays qui doit être repensé d'ici la fin de l'année. Le gouvernement avait annoncé début juillet que la vingtaine de projets d'infrastructures qui sont en cours, pour lesquels 10 milliards d'euros manquent, allaient être mis en pause, arrêtés, stoppés, au moins provisoirement, leur financement devant être repensé face au manque d'argent public dont on vient de parler. La ministre des Transports, donc Elisabeth Borne, et le Premier ministre Édouard Philippe donnent tout à l'heure le coup d'envoi de ces assises de la mobilité, censées durer 3 mois et aboutir à début 2018, donc au début de l'année prochaine, à une loi d'orientation sur cette question. Véronique Rebereut, bonjour.
Bonjour.
Bon, à part faire des économies, ça on l'a compris, c'est la ligne générale. Quelle est la philosophie du gouvernement en ce qui concerne notamment les transports en France ?
C'est rajouter derrière mobilité, la mobilité de demain, le mot durable et soutenable aussi, si possible, financièrement. C'est là, en tout cas la première fois qu'on va débattre de tout ça, des politiques publiques à mettre en place, à les adapter aux nouvelles pratiques de transport. transports, le covoiturage, l'usage du vélo, par exemple, en lien aussi avec, bien sûr, les enjeux du moment, la lutte contre le réchauffement climatique et les enjeux de santé publique. Les transports, faut le rappeler, représentent en France 30% quand même de nos émissions de gaz à effet de serre. Ces nouvelles pratiques nécessitent un cadre législatif nouveau qui prenne en compte les mutations qui sont en cours. Cela va passer par une fiscalité effectivement nouvelle pour encourager les alternatives à la voiture. Prime à l'achat d'un vélo électrique, elle existe, mais elle devra être prolongée. Indemnité kilométrique pour les usagers du vélo, prime à la casse pour les vieux véhicules étendus, hein, comme l'a annoncé hier Nicolas Hulot, etc. Avec une nouvelle donne aussi, le numérique, qui favorise aujourd'hui les transports partagés, une révolution qui commence seulement. Alors l'objectif, c'est aussi de faire le tri, vous l'avez dit, dans les projets d'infrastructures à venir cet été. Donc le gouvernement a décrété une pause dans la réalisation de ces nouveaux projets, lancés sans que leur financement soit assuré. C'est le problème, le tunnel Lyon-Turin, par exemple, les associations environnementales qualifient de grand projet inutile, coûtera au bas mot 9 milliards d'euros, la ligne TGV Bordeaux-Toulouse, le canal Seine-Nord et d'autres. Il ne s'agit pas pour le gouvernement de s'embarquer dans des projets qui, à terme, se révéleraient ruineux. Cela veut dire donc trouver de nouvelles sources de financement, taxer davantage les poids lourds. C'est une évidence pour le gouvernement, c'est un sujet aussi potentiellement explosif. Il y en a d'autres aussi dans ce dossier, comme l'avenir par exemple du fret ferroviaire en France.
Merci beaucoup Véronique Roberotte. Le campement de Grande-Synthe dans le nord où vivaient plusieurs centaines de migrants a été évacué ce matin par les forces de l'ordre. Les migrants dirigés vers des centres d'accueil et d'orientation. Opération de mise à l'abri des personnes qui vivaient dans de mauvaises conditions. Conséquence directe des orientations données par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. C'est ce qu'indique le porte-parole de la préfecture du Nord, donc. Une dizaine de jours après le passage destructeur d'Irma, nouvel ouragan donc sur les Antilles en ce moment, Maria secoue la Guadeloupe. L'ouragan qui avait atteint la catégorie maximale 5 hier soir était dans la nuit revenu à la catégorie 4, mais restait extrêmement dangereux selon en tout cas le Centre national des ouragans américains. On fait le point avec Jacques Witowski, qui est directeur général de la sécurité civile à la mi-journée.
En Martinique, les reconnaissances sont encore en cours, mais d'ores et déjà, nous pouvons indiquer que les dégâts matériels sont peu importants, peu significatifs, et qu'ils permettront en tout cas une remise en état et une reprise de la vie économique dès que la fin de la dépression sera passée. Le cyclone a poursuivi sa trajectoire en traversant l'île de la Dominique et se situe aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à moins de 70 km au sud de la Guadeloupe. Il est passé sur les Saintes il y a 2 heures avec un impact sans doute important puisque l'œil du cyclone n'était qu'à 20 km de l'archipel des Saintes. Nous sommes actuellement dans la zone de blackout, donc il est très 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 compliqué de pouvoir communiquer avec la Guadeloupe qui bien évidemment engagera ses reconnaissances dans quelques heures et nous aurons à la fin de la journée des éléments précis sur les premiers dégâts qui sont concernés.
1h10, on revient à notre invité Frédéric Ancel, toujours en ligne avec nous. On a parlé, Frédéric Ancel, de cet accord iranien il y a quelques minutes. Ce matin, on a noté une autre rencontre apparemment importante pour le Proche-Orient, c'est celle entre le président égyptien Al-Sisi et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'est la première fois qu'ils se rencontraient, en tout cas publiquement. À l'issue de la rencontre, d'ailleurs, le président Sisi a souligné l'importance de relancer les négociations entre Palestiniens et Israéliens, notamment pour parvenir à un règlement global. Qu'est-ce qu'il faut conclure du caractère public, donc, ce matin de cette rencontre à New York?
C'est effectivement important, comme vous l'avez dit, parce que c'est l'illustration de la très bonne santé des accords de paix de Camp David, dont il faut rappeler qu'on fêtera l'an prochain les 40 ans. Hein. C'est 78 et c'est un accord qui tient toujours et plus que jamais. Pourquoi plus que jamais? Parce que l'Égypte se retrouve aujourd'hui objectivement dans le même camp qu'Israël, à plusieurs titres d'ailleurs, mais notamment contre le Hamas palestinien, qui domine la bande de Gaza depuis son putsch de 2007, dans le même camp face à l'axe, qu'on va appeler irano-chiite, en quelque sorte, et puis parce que le Sinaï égyptien est en proie au djihadisme. Et le Sinaï est une région contiguë, qui appartient bien évidemment à l'Égypte, mais dont la frontière, à la frontière duquel se trouve Israël, et les djihadistes dans le Sinaï, il y a encore quelques jours de cela, ont tué plusieurs dizaines de policiers et de militaires égyptiens, et Al-Sisi n'arrive pas à se débarrasser de cette menace. Et là, les renseignements qui sont échangés entre Israël et l'Égypte sont très important. J'ajoute un point qui me semble aussi essentiel, c'est que Al-Sisi ne joue pas la politique du pire dans le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire qu'il a toujours tenté, et il le fait encore aujourd'hui, de soutenir l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas contre les jusqu'au-boutistes du Hamas.
Alors justement, à propos de cette situation israélo-palestinienne, la rencontre Sisi-Netanyahou est intervenue dans le sillage d'une autre rencontre au Proche-Orient, enfin un entretien en tout cas, entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef du mouvement islamiste Hamas, Ismaël Haniyeh. Est-ce que malgré le blocage apparent de la situation, il n'y a pas là quelques éléments qui permettraient de penser que quelque chose se tramerait ?
On pourrait l'espérer, ça fait juste la 9e fois en 14 ans que le Hamas tend la main ou fait semblant de tendre la main à l'autorité palestinienne. Le Hamas aujourd'hui est extrêmement isolé. Donc le rapport de force lui est très défavorable, bon, bien sûr face à Israël, mais face également donc à l'Égypte d'Al-Sisi qui chasse les djihadistes, comme on vient de le dire, mais également les frères musulmans de manière générale. Or, le Hamas est une émanation des frères musulmans, il faut le rappeler. Et puis, le Hamas n'est plus aussi soutenu par le Qatar et l'Iran que naguère. Donc, il tend effectivement la main à Mahmoud Abbas. Tant mieux si ça fonctionne. Restera à savoir si le Hamas acceptera enfin de respecter les prérequis de la communauté internationale, à savoir le respect des accords d'Oslo, passés avec Israël en 1993, le respect de la prépondérance institutionnelle de l'autorité palestinienne, et puis l'abandon de l'usage de la violence. Et ça, pour l'instant, le Hamas ne nous a jamais démontré qu'il acceptait de le faire.
Frédéric Ancel, il faut dire encore un mot maintenant des deux discours attendus, notamment cet après-midi, celui de Donald Trump et d'Emmanuel Macron, qui vont se succéder à la tribune. On présente parfois leurs positions respectives comme l'opposition entre l'unilatéralisme qu'incarnerait donc Trump et le multilatéralisme que défendrait Macron. Est-ce qu'il faut voir les choses comme ça ? Est-ce que c'est un enjeu pour cette Assemblée générale de l'ONU ?
C'est un enjeu, mais je dirais qu'un autre angle est également perceptible, peut-être même plus important, ou un autre clivage plus exactement entre les deux chefs d'État. D'un côté, l'imprévisibilité et l'impréparation chronique sur à peu près chaque dossier en matière d'affaires internationales, ça c'est Trump, et la volonté rationnelle, crédible, jusqu'à présent en tout cas, du président français Emmanuel Macron. Donc là on est sur une grille de lecture qui pose problème, parce que malgré tout, Trump est quand même le président de la première puissance mondiale et d'une puissance amis et alliés de la France par ailleurs. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on a affaire plutôt à deux façons de mener les relations internationales. Une façon, encore une fois, relativement imprévisible et assez brutale, Trump, mais à certains égards aussi Erdogan et d'autres chefs d'État
Erdogan qui prendra la parole aussi tout à l'heure, oui.
Oui, absolument. Mmh. Et de l'autre côté, un Macron, une Merkel, peut-être même à certains égards un Poutine, dont la politique est brutale, mais prévisible. De l'autre côté, mon propos n'est pas moraliste, mais on a affaire, je crois, objectivement, à deux manières de gérer effectivement les relations internationales, peut-être davantage que sur le vieil angle, effectivement, unilatéraliste ou multilatéral.
Vous parlez quand même d'imprévisibilité pour Trump, mais est-ce que ce n'est pas simplement la gestion des intérêts, bien compris, de la puissance américaine aujourd'hui, en quelques mots ?
Alors oui, sur le plan économique. C'est-à-dire que, alors en un mot, je vous dirais que Trump a été, depuis son élection, d'une cohérence absolue sur un point en matière d'affaires intérieures et internationales, c'est la défense de l'emploi dans les usines américaines. Je vous prendrai un seul exemple très rapidement. Il était allé en visite en Arabie Saoudite il y a quelques mois de cela, et en réalité, il en est revenu avec des promesses de contrats et d'achats d'armement pour plus de 110 milliards de dollars. Eh bien ça intéresse Trump beaucoup plus, franchement, que les vrais dossiers concernant les affaires internationales.
Frédéric Ancel, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation d'être en ligne avec nous. Je rappelle que les PUF donc publient ces jours-ci votre dernier livre, Mon dictionnaire géopolitique. Un temps couvert sur la plupart des régions, le pourtour méditerranéen épargné, des températures de 15 à 24 degrés. Une édition réalisée avec Yacine Bouzard qui s'achève et le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.